démarrer. Alors, merci de votre invitation et de m'inviter à réagir. Je vais essayer de réagir pour une petite partie comme universitaire et comme une autre partie en rappelant que je suis administrateur d'une caisse d'épargne dans le Sud-Ouest, membre du comité des risques en charge du pilotage des risques. Et donc, Caisse d'épargne, comme vous le savez, qui est une banque coopérative. Et je suis souvent assis à côté d'une administratrice qui est une ancienne institutrice à la retraite. Elle aurait été parfois un peu saisie par les propos. Elle n'a pas le sentiment d'être quelqu'un qui cherche à déstabiliser la société. Sur un plan académique, moi je voudrais simplement rajouter que pour moi il n'y a pas vraiment de sujet, dans la mesure où notre travail c'est quand même largement d'expliquer des décisions et d'essayer de prévoir des décisions au regard d'un certain nombre d'aspects. Et si on ne le fait dans le domaine de la gestion que sur des aspects un peu techniques, de méthodes, d'outils, de règles de décision, c'est pas suffisant. Et c'est bien pour ça, et Yuri le rappelait au niveau du Lab Extrefi, il faut introduire des dimensions juridiques et des dimensions humaines dans les processus de décision. Donc évidemment, on n'est que sur des explications partielles si on s'en tient effectivement à regarder l'étude de la finance et des décisions financières sous l'angle technique. Voilà. Donc ça, c'est mon premier élément, et on est bien convaincu par la moi plutôt du point de vue des sciences de gestion et du management, on est bien convaincu que d'introduire des éléments explicatifs d'ordre juridique et humain, ça ne peut qu'améliorer la compréhension des processus de décision, que ce soit sur des comportements d'acteurs bancaires, que ce soit sur des comportements d'acteurs de marché, ou que ce soit sur des comportements d'acteurs au sein des entreprises, dans des directions financières, au moment où ils prennent des décisions. On sait très bien qu'il y a parfois des décisions qui sont prises en dehors de toute logique ou en dehors de toute référence à des aspects techniques, d'optimisation, d'efficacité, de rentabilité, qui sont liées à une attitude personnelle face, par exemple, à la dette. Moi, je travaille beaucoup sur les logiques d'endettement. Il y a des gens, on a beau leur expliquer de façon... Enfin, leur dire, d'un point de vue technique, il y a quand même un intérêt à être endetté. Et qui, par principe personnel ou par façon de voir les choses, ne souhaitent pas l'être. Donc, à partir de là, il y a bien, sur un même sujet, deux façons d'aborder le problème. Et tout ça sans forcément dire que quelqu'un qui dit bah, la dette pose pas mal de problèmes, ce qui est vrai, c'est pas pour moi avoir une approche critique d'autres visions qui disent non, avoir de la dette dans son développement, dans sa façon de financer, c'est la meilleure des solutions. Donc, d'un point de vue, moi, purement académique, l'idée de je ne sais pas si c'est de refonder, mais en tout cas d'aborder la finance sous différents angles. Alors, effectivement, je suis sensible à l'argument de dire, ouais, mais alors du coup, est-ce qu'on est en finance, en gestion, est-ce qu'on est en sociologie, où est-ce qu'on est? Soit on critique globalement l'organisation académique en disant on a un problème en silo et on sait que la transversalité n'est pas forcément reconnue, mais on le sait depuis 30 ans. Alors soit on essaie de changer le truc, on dit on ne fait plus des disciplines et on fait des thèmes, hein, on change complètement le truc, soit on dit si on fait ça, enfin, moi personnellement je suis un partisan de la transversalité, mais je n'attends pas particulièrement de reconnaissance académique de ce point de vue-là. Moi j'attends à ce que ce qu'on travaille produise des idées, des propositions intéressantes pour les acteurs économiques, publics, etc. Je ne suis pas du tout dans l'attente d'une reconnaissance d'un corps qui ne fonctionne pas comme ça et dont je ne me sens pas en capacité à le faire fonctionner différemment. On sait que voilà, il n'y a pas de CNU transdisciplinaire, il n'y a pas de machin, on va point à la ligne. C'est les grandes écoles de management anglo-saxonne, Yuri le sait bien, quand vous y allez à l'intérieur, que vous rencontrez les gens, et j'étais il n'y a pas si longtemps au MIT, j'ai rencontré sur, rien à voir avec la finance, mais l'entrepreneuriat et l'innovation, des sociologues, des ingénieurs, quelques gens de gestion, des économistes, et ce n'était pas le sujet. Ils étaient là, voilà, ils avaient leur logique de département à l'interne, mais par ailleurs, pour traiter des problèmes et adresser des problèmes de la société, ils le faisaient de façon transversale, sans avoir besoin de se référer à un champ, académique et dire ce champ malheureusement n'est pas, cette transversalité n'est pas reconnue. Donc ça c'est ma réponse, académique, si vous voulez, d'un point de vue académique. Après, faisant le lien académique, un peu un côté professionnel, parce que j'ai quand même une responsabilité de proposer une politique de risque à un établissement qui gère 25 milliards d'euros quand même, et dont 12 milliards de dépôts, je me pose la question, je vois bien les limites de l'exercice académique. Alors je vais en donner deux par rapport à la première intervention. Quand on dit on n'a pas fait les choses à la hauteur où on aurait dû les faire en termes de réglementation, moi je suis preneur de c'est quoi la hauteur. Je suis preneur de c'est quoi la hauteur. Je peux vous dire, pour être dedans, qu'on a doublé la hauteur des sécurités. J'ai le sentiment que ça peut ne pas être assez, mais je ne peux pas vous dire quelle est la hauteur à laquelle il faudrait monter. Non, il y a pas de. C'est d'un point de vue opérationnel. C'est quoi la hauteur quand vous gérez 12 milliards de dépôts? Où est-ce qu'il faut mettre la hauteur du capital? Où est-ce qu'il faut. Voilà, c'est concret. Si j'ai un sujet de dire, bon, mais j'avais pris quelques notes sur les modèles internes. J'entends les modèles internes, c'est une façon effectivement de détourner, j'ai bien aimé le terme capture corrosive, hein. C'est un moyen de détourner ces modèles internes. Alors, encore une fois, c'est peut-être pas assez, hein. Moi, je suis assez dans l'idée que sur certains sujets, c'est sans doute pas assez, mais ils ont produit une décision simple, c'est que dans mon établissement, on a été amené à doter deux fois plus de fonds propres, qui sont une sécurité première, on va dire, sur les difficultés et les pertes. On a été amené à doter deux fois plus de fonds propres. Cet argent-là, il ne tombe pas du ciel, ce qu'il a fallu mettre en réserve un certain nombre de choses et pas faire autre chose avec cet argent-là. Donc, quand même une évolution concrète que moi j'ai vécue puisque je suis rentré après la crise, au moment où il fallait reconstituer effectivement une certaine sécurité pour les déposants. Et dernière chose, quand on dit les États démissionnent, oui, c'est vrai. Mais là, on est dans une logique, tout simplement, à dire le jour où on pourra faire les choses sans avoir besoin d'appeler les marchés pour s'endetter, c'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin des marchés, vous verrez qu'on sera moins à être soumis effectivement à un certain nombre de forces. C'est-à-dire que le problème, c'est celui de la dépendance. C'est-à-dire qu'on s'est mis en dépendance. Il ne m'appartient pas de juger si c'est bien, si c'est pas bien. Je fais un constat qu'il y a besoin chaque année d'une soixantaine de milliards d'euros. Et effectivement, comment on peut les trouver? Alors, je parlais avec quelqu'un dans mon conseil d'administration, un représentant des syndicats de salariés, me dit, ça sera très bien, il faut qu'on rapatrie tout l'argent qu'on n'a pas à cause de la fraude fiscale. Super. Je dis, je suis d'accord. Moi, je vote pour. Je vote pour. Mais je veux dire, je suis absolument d'accord. Mais si on attend que ça se passe, moi, j'ai un peu peur qu'on ait. Il y a des problèmes avant, quoi, si vous voulez. Mais je suis entièrement pour la mesure qu'il me proposait. Donc voilà, cette espèce de démission, en tout cas, se dire que les banques ont plus de pouvoir que les États, c'est vrai. Moi, je suis d'accord pour dire qu'il y a des banques dans des structures privées qui, par leur poids, leur taille, sont en situation de peser plus que les États. Je suis absolument d'accord avec ça. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en termes de volume, il n'y a pas de raison. Se dire que BNP, ça fait 2 000 milliards de total de bilan. Le PIB français, ça fait 2 200 milliards. Donc, effectivement, une institution privée, avec des actionnaires privés, est en situation de concurrencer, d'avoir un pouvoir d'influence plus fort que l'État. C'est un constat. C'est un constat qui est avéré. Par contre, si un État n'était pas dépendant de ces institutions, ne serait-ce que pour arranger et trouver des investisseurs pour combler des déficits, je pense que le rapport de force serait nettement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Il y a une notion, justement en finance, qui est celle d'autonomie. Est-ce qu'on a de l'autonomie par rapport à des gens qui, par le fait qu'ils vous financent, du coup, ont de l'influence sur vous? Donc, je pense qu'on est en perte d'autonomie. Ouais, on a perdu l'autonomie qu'on aurait pu avoir. Il ne m'appartient pas de juger si c'est bien, c'est pas bien, si on en fait assez, pas assez, la dépense publique, etc. Je ne rentre pas dans ce débat-là. C'est un constat factuel. Le jour où on ne sera plus, on aura regagné de l'autonomie, si tant est que ce soit possible, je pense que pas mal de difficultés que vous avez énoncées seront elles-mêmes atténuées. Voilà ce que je voulais dire.